J'écoute trop profondément. J'écoute avec toute mon identité qui, d'un seul coup, contemplant la différence, s'écrie « Non, je ne suis pas d'accord ». Mais c'est parce que j'écoute avec toute mon identité, avec tout l'être inférieur que l'on appelle la personnalité et la psychologie, englobant aussi le caractère, etc. Si donc je regarde l'autre avec une certaine distance, avec une distance que j'imagine nécessaire pour qu'un train puisse passer. Gardez toujours cette distance, moralement. Imaginez tout le temps qu'un train puisse passer entre vos deux esprits. Si je garde cette distance, au moment où la personne va émettre ce qu'elle émet régulièrement et que je n'aime pas, automatiquement, la chose qui est émise ne trouvera pas un pont direct avec ma personne. La chose émise va se perdre dans ce vide que j'ai créé entre l'autre et moi. Si bien que sa parole, son idée, son geste et même l'énergie de son aura va basculer dans ce vide. De ce fait, je ne suis jamais atteint. Un homme peut me cracher au visage, il est certain que sa salive ruissellera sur ma joue. Je ne peux pas renier l'existence de son crachat, c'est certain. Mais mon vrai visage n'est jamais atteint. Et c'est cela que les hommes appellent le détachement. C'est ce qui leur semble si difficile à conquérir. Et c'est difficile parce qu'ils utilisent la mauvaise énergie. Alors que pour le sage, c'est très facile de continuer à être détaché parce qu'il a compris quelle énergie il devait utiliser pour cela. Sitôt que vous créez des distances, ce qui ne veut pas dire que vous devez être distancé par rapport à tous les hommes. Simplement, l'identité que vous projetez et qui est vous-même, cette identité-là doit toujours garder une distance, de façon à ne pas croire ce que l'autre va dire, ne pas s'identifier avec ce que l'autre va dire. Si bien que lorsqu'un homme se lèvera et vous dira « Mais tu es le roi des imbéciles, tu es l'être le plus bête que j'ai jamais rencontré », si votre identité reste dans son cercle et imagine qu'il faut une distance propre à laisser passer un train, eh bien, vous n'allez pas commettre l'erreur de rentrer dans le jeu de l'identification. Vous n'allez pas croire ce que dit l'autre, vous identifier à ce que dit l'autre et rentrer chez vous, à l'intérieur de chez vous, complètement ravagé, traumatisé, complexé. Ce qui fait que par là même, vous allez être obligé de vous défendre ou d'agresser quelqu'un d'autre parce que vous avez été agressé. Il est très facile de créer cette distance, ce qui ne veut pas dire que c'est une distance qui permet de mettre une indifférence entre deux individus. Ce n'est pas cela du tout. Cela n'est pas une distance d'indifférence. Cause toujours, mon petit bonhomme, moi je suis dans mes quartiers, tu ne pourras pas m'atteindre. Ce n'est pas comme cela que vous devez conclure qu'il s'agit de réagir. Ce n'est pas de l'indifférence. Au contraire, c'est un puissant amour. Pourquoi ? Essayez de le comprendre pourquoi, avant que je le dise. Essayez de comprendre pourquoi je dis qu'à ce moment-là, c'est de l'amour. Captez, recevez. Je vais laisser traîner ma parole quelques instants pour que vous puissiez sentir Essayez de comprendre pourquoi c'est de l'amour. De l'amour. Et pas de l'indifférence. C'est de l'amour tout simplement parce que ce vide, qui n'a rien à voir avec un vide diplomatique, ce qui aboutirait à être de l'indifférence, ce vide est une grande liberté. Je laisse à l'autre la liberté d'être ce qu'il veut être. Je laisse à l'autre la liberté de dire ce qu'il veut dire, de penser ce qu'il veut penser, ou de penser tout simplement ce qu'il est seulement capable de penser. Ce n'est pas forcément toujours et systématiquement une volonté. C'est souvent tout simplement une question de capacité. Ce vide diplomatique est un geste d'amour, un geste dans lequel l'autre trouve l'espace pour exister tel qu'il est. Et vous-même, par là même, vous vous laissez aussi le même espace pour votre propre existence, sans que cela nuit à l'autre. De ce fait, en homme libre, vous pouvez tous penser, dire ce que vous voulez. Par contre, dès que ce vide diplomatique n'existe plus, dès qu'il y a projection de mon identité, et Dieu sait que lorsque l'on est en incarnation, tous les êtres humains tombent dans ce piège, ils se projettent à l'extérieur. Je me projette dans la forme, je me projette dans les pensées qu'entretiennent les autres à propos de moi. Et c'est là où tout va mal. Parce que si les autres entretenaient sans cesse des pensées bénéfiques à mon propos, si tout le monde pensait que je suis beau, intelligent, etc., je serais très heureux sur la terre. Mais voilà, il y a ma mère qui m'a dit que j'étais idiote et je n'avais que 6 ans. Et je l'ai cru et je la crois encore. Même que j'essaye de me convaincre du contraire, je la crois encore. Puis plus tard, il y a eu mon père qui a dit que j'étais peut-être bon à rien parce que je n'ai pas réussi à mon examen. Depuis, j'ai réussi d'autres examens, mais il a parlé tellement fort et tellement juste à ce moment-là que je l'ai cru et depuis j'y crois encore. Ce qui fait que j'ai beau remporter tous les examens du monde, j'ai toujours envie d'une certaine victoire parce qu'il me semble que je suis toujours dans la défaite. Mais en fait, c'est une victoire intérieure que tu cherches. La victoire sur ton père qui t'a donné à ce moment-là une fausse image de toi-même. Et c'est pour cela que quand tu fais tes compétitions, tu n'as pas choisi des compétitions qui puissent t'amener dans un milieu mixte, par exemple. Tu fais des compétitions systématiquement dans un milieu masculin, parce que tu veux remporter la victoire sur ton père. C'est un exemple que je cite. Et puis il y a mon premier amour, ah ça c'est important, un premier amour. Ça marchait très bien les premiers temps. Puis au bout de quelques mois, voilà que mon premier amour me dit que je suis laid, très laid, incapable de l'érotisme le plus primaire, ce qui m'a percé droit dans le cœur, pensez donc. Et me voilà aujourd'hui, messieurs et dames, à attendre l'autobus. Et je pense à toutes ces choses. Je pense à cette incapacité dont m'a parlé ma mère, à cette incapacité dont m'a parlé mon père, à cette autre incapacité qui est venue couronner le tout et dont m'a parlé mon premier amour. Alors ne soyez pas étonnés à ce que je sois habillée toujours de gris, avec un manteau trop long pour me cacher, des lunettes étroites pour écourter ma vue. Sans compter le chapeau, sans compter les gants, sans compter les épaules que je remonte pour qu'elle puisse mieux me couvrir, sans compter aussi la petite voix pour que l'on ne me remarque pas. Ce qui fait qu'au bout de quelque temps, eh bien, la colère vient et me donne envie de casser des tables. Et comme j'ai un enfant et qu'il est turbulent, eh bien, sur lui, je déverse mon excès d'autorité. Et sitôt que je l'ai déversé, je me plains à moi-même. Je me trouve laid. Je me trouve vil. Et tout ça a commencé quand ? Quand j'ai cru tout ce que l'on disait à propos de moi-même. Quand j'ai cru que j'étais bête, incapable et impuissant. Quand j'ai cru toutes ces choses, ma vie a basculé, est devenue un enfer pour moi et pour les autres. Où est la solution pour toi ? La solution se trouve dans un geste simple, un geste de l'esprit, qui consiste à retirer la projection. Si tu as cru toutes ces choses, c'est parce que ton esprit, en suivant le mouvement de l'incarnation, ton esprit s'est précipité vers l'extérieur. En se précipitant vers l'extérieur, il a rencontré toutes sortes de formes, de sons, donc de mots, d'idées, de comportements. Et étant trop à l'extérieur, il agissait exactement comme une plaque photo, comme un film photo. Et tout ce qu'il a vu à l'extérieur est venu s'imprimer sur son film. Pauvre esprit. Lui qui était venu voir le monde, il repart avec une triste vidéo à regarder au septième ciel. Des coups de poing, des coups de pied, des complexes, des traumatismes. Lorsque vous allez retourner au septième ciel et que vous allez dérouler votre bande vidéo auprès de vos amis pour leur montrer ce que vous avez vu sur la Terre. Imaginez un peu ce que vous allez leur montrer comme film. J'ai commencé par naître étouffée, ou bien par césarienne, ou bien je suis née en avance et l'on m'a mis dans une couveuse. Le film commence déjà pas si bien que cela. Et je ne vous raconte pas les gifles, les fessées, les remontrances que j'ai endurées pour être élevée. Sans compter toutes les fois où l'on m'a arraché des cheveux à la récréation. Puis plus tard, pendant ma vie professionnelle, regardez tous les coups de poing, les coups tordus, les crocs en jambes que j'ai expérimentés. Quel triste film! Et comme à ce moment-là, vous vous trouverez en quelque sorte au paradis, eh bien les amis ne voudront pas regarder votre vidéo. Tout simplement parce qu'ils auront mieux à faire dans le plan qu'ils viennent d'atteindre. Donc, toutes les choses que vous voyez à l'extérieur, auxquelles vous vous identifiez, les choses que vous croyez, s'impriment sur votre conscience. La conscience agit à ce moment-là comme un film, une pellicule photo. Si il n'y a pas le témoin pour décider d'un certain tri qui devra être fait entre ce qu'il est bon d'imprimer et ce qu'il n'est pas bon d'imprimer, tout ira sur vous, tout rentrera et construira des ténèbres et des enfers en vous. Si au contraire il y a le témoin, à ce moment-là il y a une douane. Et à cette douane, on laisse tous les bagages inutiles de l'autre côté. On ne remporte que l'essence des expériences. Et des expériences qui véritablement ont un sens et une valeur ésotérique. Comment créer ce témoin ? Eh bien, ce témoin, c'est le vide diplomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est grâce à cet intervalle que vous arrivez, que vous vous permettez d'être vous-même. C'est grâce à cela que vous arrivez à regarder l'autre tel qu'il est et non pas l'autre en tant que miroir de vous-même, jugement de vous-même. dans cet emportement pour croire trop ce que pensent et ce que disent les autres, il y a d'une part le phénomène de l'incarnation, donc de la projection, mais il peut aussi y avoir quelque part des petits problèmes karmiques. C'est-à-dire quelqu'un qui, ayant par exemple commis des erreurs, ayant été nuisible de quelque manière que ce soit dans un passé, cette personne-là va naître avec une certaine culpabilité. Si bien qu'elle va chercher absolument dans le regard de l'autre l'énergie pour la fouetter, l'énergie pour l'exorciser, l'énergie pour lui faire payer, entre guillemets, le mal qu'elle a commis. Ces attitudes-là sont beaucoup plus difficiles à traiter et il faut dans ce cas-là vous en remettre à un véritable thérapeute, quelqu'un de bon conseil qui vous aide à remonter à la racine du problème ou qui vous aide à brûler par accélération du karma en ayant une meilleure compréhension par exemple de votre thème astrologique et de vos énergies, qui vous aide tout de suite en disant « Eh bien là est le point ». Mais en utilisant telle énergie, tu vas pouvoir brûler cette dette et tu seras libéré. Si donc vous faites partie de ce genre d'individus qui vivent une culpabilité, vous n'arriverez pas à en sortir tout seul. Remettez-vous entre les mains d'un thérapeute. Que celui-ci utilise la remontée dans l'inconscient, la lecture du passé, ou qu'il utilise les balayages d'aura, ou qu'il utilise par exemple les thèmes astrologiques pour voir quelles énergies ne fonctionnent pas et devraient fonctionner dans votre vie. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, alors tout de suite, attelez-vous à ce travail. Ne commettez pas l'erreur de vous projeter sans cesse dans ce que disent les autres, dans ce que pensent les autres, ou face à toute une société. Ce qui fait que moi, parce que je suis comme cela et que la société ne l'est pas, eh bien, c'est moi qui ne va pas. Bien sûr, il y a des repères que l'on peut faire, car il est certain que un certain bon sens est souvent partagé par les autres et qu'à partir de cet exemple, le bon sens auquel vous rapporte l'autre est quelque chose à écouter, c'est un conseil à suivre. Vous ne devez pas donc systématiquement ignorer tout ce qui vient de l'extérieur sous prétexte que vous avez votre vie de diplomatique et que vous pouvez faire ce que vous voulez. La vie est un mouvement d'évolution. Vous devez de temps en temps savoir jeter un pont-levis dans ce vide diplomatique pour faire atterrir ce pont-levis dans l'aura d'une personne que vous savez de bons conseils ou d'expérience plus ancienne que vous, qui peut vous donner quelques indications pour mieux alchimiser les énergies qui se trouvent en vous. Donc, il ne s'agit pas systématiquement de s'enfermer sur soi-même et décider de vivre sa vie comme l'on veut. Dans les premiers temps, les individus ne vont pas savoir à quel moment ils auraient dû lancer le pont-levis pour écouter telle personne, pour suivre telle personne, ou tel livre, ou telle société. Mais ceci fait partie de la roue du karma, la roue de l'évolution. Les endroits où vous n'avez pas su jeter le pont-levis cette fois, l'autre fois vous saurez où jeter le pont-levis. Parce que l'occasion reviendra et le manque qu'avait créé dans le passé votre mauvaise réaction, votre oubli, votre mauvaise appréciation, ce manque-là est devenu si important qu'il se transforme en énergie. Énergie qui va rendre absolument impérative la nécessité de jeter le pont-levis à un moment donné sur quelqu'un, sur un livre, une religion, un temple, une société, une façon d'être, peu importe. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir comme étant véritablement propulsé à croire, ou à faire, ou à entrer dedans, ou à autre chose. Si bien que vous aurez l'impression que cette énergie est un acquis. Alors c'est vrai, cela peut être un acquis. Mais il y a deux façons d'obtenir un acquis. Il y a une façon positive d'obtenir l'acquis, c'est-à-dire en ayant compris dans une autre vie et en ayant toujours agi d'après la loi qui était à remplir. Mais on peut aussi acquérir l'équivalent de l'acquis, c'est-à-dire son équivalent vibratoire, en n'ayant pas fait du tout ce qui était à faire. En ayant donc accumulé un tel besoin, une telle nécessité, qu'au moment où la circonstance représentant cette même loi à remplir, au moment où la circonstance se représente, toute l'énergie qui avait été créée par le manque se propulse et ne vous demande même pas votre avis, elle sort hors de vous et vous fait agir dans le sens où vous pouvez remplir la loi. Mais il faut pour cela avoir accumulé beaucoup de manques. Ce qui veut dire que selon les sujets, selon les qualités à développer, pendant plusieurs vies, le manque aura été expérimenté, entraînant de grandes souffrances sur soi-même et sur les autres. Tout ceci, c'est du détail, mais c'est un schéma que je voulais prendre le temps de vous expliquer pour vous montrer comment s'articulent les énergies et les expressions à travers les âges. Donc, vous pouvez aller vers Dieu, en fait, en faisant le contraire de la voie de Dieu, comme en faisant ce qui est écrit sur la voie de Dieu. Sauf que si vous choisissez la voie du contraire de ce qui est écrit, vous allez accumuler de la souffrance, vous allez accumuler du karma, vous allez accumuler aussi beaucoup de temps et d'incarnation. Alors que si vous choisissez la voie de faire ce qui est écrit, vous brûlez les étapes en quelque sorte. Vous construisez plus vite vos différents corps subtils, vous passez aussi plus vite les initiations et vous économisez de la souffrance. Et vous arrivez au même point que l'autre. Que l'autre qui est passé par une longue spirale dont le fil était très mince, si bien qu'il avait le temps de passer 1000 fois sur chaque arc de la spirale. Et vous voyez en face de vous arriver un individu beaucoup plus âgé, mais pas plus expérimenté, pas plus lumineux. Donc, si vous allez à gauche, vous pouvez très bien rouler à gauche, mais si vous allez aller à gauche, il y aura toujours une main pour vous donner la gifle qu'il faut afin de vous faire revenir au centre, c'est une façon de voir les choses. Et si vous allez à droite, vous pouvez rouler à droite, il y aura tout simplement un bâton d'initiation. Et ce bâton, au fur et à mesure des étapes, vous transmettra l'énergie qu'il faut. Celui qui roule à gauche va faire un long parcours, avec sans cesse des gifles, des coups de pied. C'est ce que l'on appelle le karma, les dettes karmiques. De temps en temps, il va pouvoir aller à droite et faire quelque temps selon ce qui est écrit. Et à ce moment-là, il rencontre le bâton et il reçoit de l'énergie. Mais on ne sait pas pourquoi, des fois. Par lassitude, peut-être, je ne sais pas. Des individus reviennent à gauche après être allés à droite. Et à ce moment-là, le karma devient encore plus fort. Le karma s'accélère, il devient un véritable enfer. Et c'est ce que nous redoutons pour les sections de l'occultisme. Des personnes qui, ayant suffisamment étudié les lois, quittent la voie de gauche, se mettent donc quelque temps à droite, et on ne sait pas pourquoi, une certaine folie les prend. L'ego se surdimensionne et il quitte la voie de droite pour retourner à gauche et commence à faire de la magie, par exemple. ou commence à vouloir asseoir une gloire personnelle, un pouvoir personnel. Ce qui fait qu'il rencontre à ce moment-là, sur la gauche, un karma exceptionnellement affreux et languissant. Ce qui fait que parfois, en quelques villes, l'individu revient à droite. Mais il faut savoir qu'au moment où il revient à droite, alors qu'il était retourné à gauche, à ce moment-là, des comptes vont lui être demandés. C'est-à-dire que l'individu ne réintègre pas comme cela, comme si de rien n'était. Il ne peut pas réintégrer le sein de la fraternité. Il faut qu'il démontre qu'absolument toutes ces mauvaises tendances, celles qui l'ont reporté à gauche, il faut qu'il démontre que toutes ces mauvaises tendances sont dissoutes. S'il n'est pas capable de montrer qu'elles n'existent plus, alors il ne sera pas accepté. On va le renvoyer sur le chemin de gauche jusqu'à ce qu'il ait fini la purification. Et lorsque celle-ci est terminée, on vient le chercher. Et il y a à travers le monde de nombreuses personnes, des quantités de personnes qui ont commis cet écart dont je parle. C'est-à-dire que là, je ne vous donne pas simplement un exemple ou un détail, je vous parle de quelque chose qui est concret, qui est vivant, qui est partagé à chaque instant. Sans cesse, vous avez des individus qui vont de gauche à droite, qui vont le dimanche à la messe et le lundi matin, en rentrant au bureau, qui se mettent à dire du mal de la secrétaire. Et pourquoi ils disent du mal de la secrétaire? Parce qu'elle est belle, qu'elle n'a pas cédé. Ou bien parce qu'elle semble toujours heureuse et que lui est sinistrement malheureux, alors il est jaloux. Il y a comme cela sans cesse des oscillations entre la voix de gauche et la voix de droite. Et dans la vie d'un homme qui essaye de marcher, cette oscillation est un véritable meurtre spirituel. On ne peut pas être à la fois de la voix de gauche et de la voix de droite, c'est impossible. Dieu, ou la hiérarchie si vous préférez, la hiérarchie aime les comptes clairs et nets. Et elle préfère à la limite quelqu'un qui dit « Eh bien, de manière irrémédiable, je veux rester dans la mafia et vous devez savoir qu'il vous faudra monopoliser des armées d'anges et d'archanges si vous voulez effacer le mal que je vais faire. » La hiérarchie préférera ce comportement-là, même s'il aboutit aux ténèbres, plutôt que le comportement de quelqu'un qui vient à la messe le dimanche, se remplit du regard du prêtre en faisant croire qu'il a réussi à lui ouvrir les portes de l'initiation et qu'en sortant de l'église, cet individu recommence les mauvaises pensées, ne prête pas assez d'attention à la vie familiale, est prêt à écraser n'importe qui dans la vie professionnelle ou néglige complètement ses responsabilités en tant qu'humain vis-à-vis d'autres humains. Celui qui va de gauche à droite sera puni plus sévèrement que celui qui reste à gauche. Cela paraît inacceptable, n'est-ce pas? Cela paraît inacceptable, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui a décidé d'être un malfaiteur, certes, on peut lui reprocher d'être un malfaiteur, c'est certain. Et la hiérarchie n'apprécie pas spécialement ce genre d'activité. Il est un malfaiteur, mais il ne fait pas de blasphème. Il ignore Dieu, il s'en fout complètement. Il ignore l'amour, il ignore les voisins, il ignore la générosité. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a des longs fusils et qu'avec ça, il compte faire la loi. Tandis que celui qui va de gauche à droite, lui se met à connaître Dieu. Lui, il croit en Dieu. Il commence à soupçonner Dieu, l'humanité ne faisant qu'un seul être. Et soudainement, il y a le blasphème. Soudainement, il renie tout ça et il retourne à gauche avec les autres, avec les loups. Ce qui fait que celui-là, pour avoir connu ne serait-ce qu'un tout petit peu Dieu et être retourné au diable en quelque sorte, celui-là sera sévèrement puni. C'est pour cela que je vous ai dit de temps en temps, qu'en vous précipitant dans la spiritualité, qu'en venant m'écouter ou en allant écouter d'autres personnes qui parlent, vous êtes en danger. Vous devez savoir que vous ne pouvez plus reculer, ni même faire un pas à gauche. Vous êtes définitivement classé dans la voie de droite. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne vous sera pardonné en ce qui concerne les écarts sur la voie de gauche. On vous pardonnera tout ce qui est dû à votre manque d'initiation, à la limite, à l'ignorance, à la maladresse, tout ce qui part en fait de quelque chose qui n'est pas provoqué ni connu de vous. Tout cela vous sera pardonné. Mais si vous connaissez et que vous faites le contraire, alors là, le grand pardon dont on parle, car on dit que Dieu est le grand pardon, Dieu est tout pardon, il tolère, il pardonne tout. Eh bien, vous apercevrez avec surprise, avec grand étonnement, en arrivant de l'autre côté, que de temps en temps, eh bien, Dieu n'est pas le grand pardon. Car cette oscillation de droite à gauche n'est pas pardonnée. Il vous faut, dans les ténèbres les plus absolues, purger votre karma à ce moment-là. Et personne ne vient vous aider. Alors que celui qui, en commettant quelques erreurs, mais qui sont dues uniquement à son manque d'initiation et à sa maladresse, alors que celui-là est aidé. Il a autour de lui des guides, puis plus loin, un veilleur, et tout ce petit monde met sa vie en place pour qu'il puisse être aidé, être soulagé, être initié. Mais l'autre est seul, terriblement seul. Ce qui fait que il a la possibilité de purger son karma et de revenir à droite, soit de devenir encore pire que ce qu'il est. Et en devenant encore pire que ce qu'il est, pour nous, il n'y a pas de tristesse, parce que tout simplement, il se trouve dissous. Il vaut mieux dissoudre que mettre en danger le système de rapport qui existe entre la monade, l'âme et une personnalité. Il vaut mieux dissoudre un réseau de personnalités, même si ce réseau-là compte de nombreuses incarnations. Il vaut mieux dissoudre ce réseau s'il n'a pas pu en sortir quelque chose de bon. Donc, lorsque vous êtes dans la vie, et que vous essayez d'être un peu spirituel, d'être un peu l'amour, la générosité, la tolérance, sachez que pour avoir soupçonné une seconde ces principes-là, vous ne pouvez plus leur tourner le dos. Et cela devient donc une véritable obligation. C'est comme si vous marchiez à côté d'un train qui avance à grande vitesse. Le train est sans fin. Donc, tout au long de votre vie, le train va rouler, va se dérouler à côté de vous. Tant que vous marchez à côté du train, à votre vitesse, il vous semble que tout va bien, que tout est cohérent. D'accord, là, il y a le train à côté, mais c'est son histoire. C'est sa destinée. La mienne, c'est celle de marcher à cette vitesse-là, sur ce terrain-là. Par contre, si, pour une raison quelconque, vous arrivez un instant à attraper la balustrade du train ou la poignée de la porte du train et que vous faites un petit peu de route avec lui, le jour où vous voulez vous détacher de ce train, eh bien vous apercevrez que vous n'allez pas tout simplement atterrir sur le sol sur lequel vous marchiez avant, mais vous allez y tomber. Parce que le train va vite, parce que le train est en pleine vitesse, et que si vous vous décrochez de lui, eh bien vous êtes propulsé à terre. Et les cailloux sur lesquels vous marchiez autrefois, et qui n'étaient absolument pas nuisibles pour vous, deviennent à ce moment-là de véritables épées, des couteaux, des morceaux de verre qui vous tailladent partout, qui vous déchirent les membres, qui vous rendent aveugle, qui vous coupent les cordes vocales, qui vous rendent infirme. Tout ceci a lieu dès que vous lâchez le wagon qui, lui, allait vite. Qu'est-ce que la voix de Dieu, donc ? Eh bien, on peut imaginer qu'un homme qui choisit Dieu, un homme qui choisit la spiritualité, monte dans un train qui va à toute vitesse, car c'est la voie d'accélération, la voie de la réintégration. Et il ne peut donc jamais redescendre de cette voie sans s'abîmer énormément, parce qu'il quitte un véhicule qui traverse le paysage de la vie à toute vitesse. Heureusement, les choses ne sont pas aussi simplistes que ce que je les explique, car il y a plusieurs trains. La hiérarchie a bien fait les choses. Dieu, lui, n'a prévu qu'un train, parce qu'il est rapide, il est direct. Pour lui, c'est la voie du milieu. Mais heureusement, après le grand-papa du ciel, il y a les tontons, les parrains, les cousins. Il y a toute une hiérarchie. Et cette hiérarchie est allée discuter avec le grand paternel. Et le tonton a dit, tu comprends, si on met le train à grande vitesse sur cette voie-là, il n'y en a pas un qui arrivera à attraper le train. Et si en cours de route, par malheur, il y en avait un qui tombait, ce serait un véritable massacre. Alors laisse-moi construire une seconde voie ferrée. Moi, j'aurai un train à moyenne vitesse. Pour ceux qui sont proches de te rencontrer, comme ça, je les adapterai petit à petit à ta propre vitesse. Et quand ils te rencontreront, il n'y aura pas de problème. Et puis en dessous du premier tonton, il y a le deuxième tonton. Le deuxième tonton qui dit aux deux autres, eh bien, votre histoire, elle est très jolie, mais moi, je vois l'humanité telle qu'elle est, je vois bien qu'il y a des gens qui n'arriveront pas à prendre ni le train à grande vitesse, ni le train à moyenne vitesse. Alors, je vais faire un train à petite vitesse. Comme ça, je vous préparerai les individus pour le train à moyenne vitesse, qui lui les préparera pour le train à grande vitesse. Et puis, après le deuxième tonton, il y a un petit cousin qui dit, eh bien, vous savez, moi, il n'y a pas si longtemps que je suis sortie de l'aventure de l'incarnation. Et peut-être que vous ne vous souvenez de rien, mais moi, je m'en souviens très bien. Et je sais combien c'est douloureux. Je sais combien c'est difficile. Même quand on veut y arriver, c'est difficile malgré tout. Alors, permettez que je fasse un omnibus. Comme ça, je serai l'omnibus qui amènera les gens de bonne volonté, même s'ils sont de petits pouvoirs, mais je les amènerai au train à petite vitesse. Et puis après, ce cousin, il y a un deuxième cousin qui, lui, est encore à moitié dans l'incarnation et à moitié dans le nouveau monde, le monde de l'esprit. Et lui, il dit, bien, vos voies ferrées, c'est très joli, mais moi, je vois l'humanité et je sais qu'il y a des hommes éparpillés partout, dans les cambrousses les plus inaccessibles. Alors, je prends un wagon de ton omnibus, mon cher cousin, je lui crée un autre moteur que celui de la locomotive, qui fonctionne à l'électricité cosmique. Moi, je vais m'inventer une autre énergie, un carburant plus terre-à-terre. Comme ça, je pourrai aller partout avec mon estafette, partout dans les petits villages, pour essayer d'amener à ton omnibus les gens qui sont éparpillés. Et ce cousin, qui est encore à moitié dans l'incarnation et à moitié dans le nouveau monde, celui de l'esprit, ce cousin-là va partout dans toutes les villes, ou dans toutes les sphères de la vie humaine, c'est-à-dire la science, l'éducation, la recherche, etc. Ce cousin-là va partout. Il parle, il démontre, il essaye d'entraîner. Et il fabrique à sa façon d'autres petits cousins. qui, eux, n'arrivent pas à conduire son estafette. Alors, il est obligé de trouver une méthode. Et il se dit, eh bien, même mon estafette, même cette petite camionnette ne peut pas être conduite par les gens de ce village. Alors, je vais en inventer une autre qui soit plus petite, plus maniable, et surtout, un véhicule qui peut être facilement alimenté par un carburant que l'on trouve sur la terre elle-même, et non plus systématiquement dans l'esprit et dans les cieux, comme il s'agit d'aller le chercher pendant les grands rituels et les grandes transformations. Ces hommes-là n'arrivent pas à monter en communion suffisante pour obtenir cette énergie. Donc, je vais fabriquer un petit véhicule, un petit rituel. Et je vais utiliser un carburant que fabrique la terre elle-même. Comme ça, même les hommes les plus petits auront de la nourriture et pourront avancer dans le véhicule. Et c'est comme cela qu'il y a en haut, tout en haut, le temple de Dieu. Plus loin, le temple du soleil, le temple de la galaxie, le temple de la planète, le temple des maîtres, le temple des initiés, le temple des disciples avancés, le temple des disciples sur le chemin et le temple des profanes. Parce que même les profanes ont des temples. Quelquefois, ce sont les temples vacillants des dernières religions. Ils s'en accaparent et pendant quelque temps encore, ils arrivent à vivre avec l'énergie qui y reste. Et quelquefois, ils édifient dans une certaine lignée. Par traduction, ils édifient leur propre temple et c'est comme cela que les hommes édifient leur propre science. Mais en fait, lorsque l'on remonte l'énergie qui a impulsé toute cette aventure, on s'aperçoit que la science qui apparaît comme étant matérialiste, par exemple l'astronomie, la physique, eh bien on s'aperçoit que là-dedans, existe une énergie puissamment spirituelle. Et que celui qui commence par exemple l'astronomie ou la physique à son point le plus bas, s'il sait ouvrir son esprit, s'instruire suffisamment à propos des plans subtils, il arrive à remonter toute la filière de l'expression de cette énergie et à aboutir à, comme l'occultiste, à Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que, à partir du moment où vous avez décidé de ne plus osciller entre la gauche et la droite, ou de ne plus marcher sur la voie de gauche, vous trouvez sur le chemin exactement le véhicule qu'il vous faut pour aller un peu plus loin. Vous trouvez d'abord le véhicule qui vous permet de faire quelques tours dans le village. Mais cette fois-ci, le village est complètement différent parce que vous le faites depuis ce véhicule qui va plus vite. Donc, la vision devient différente. Hier, pour aller de chez vous jusque à l'église ou jusque chez votre ami, il vous semblait qu'à pied, vous deviez faire une longue distance. 5 km à pied, c'est quelque chose. Mais voilà que le frère, le petit cousin est passé et qu'il a une estafette. Alors, vous montez dans cette estafette et il vous conduit chez votre ami, ce qui fait soudainement que 5 km vous paraissent tout petits. Et ainsi de suite, toutes les visions que vous aviez changent. Toutes les suppositions que vous faisiez se transforment, que ce soit à propos de Dieu, à propos des chakras, à propos de n'importe quoi. Tout se transforme. Ce qui paraissait loin devient très près. Parce que l'on vibre sur un autre plan, plus accéléré. Donc on se déplace plus vite. L'esprit peut se déplacer plus vite jusqu'à l'autre compréhension. Donc, dans un premier temps, vous allez visiter le village et vous allez apprendre à le regarder différemment. Donc, dans le premier temps, vous ne serez que face à vos propres idées. Mais même face à vos propres idées, vous apercevrez qu'elles vont obtenir une grandeur, une dimension différente. Puis, ce petit cousin, qui est très malin parce qu'il sait ce qu'il doit faire, ce petit cousin, petit à petit, va vous éloigner du village où vous avez grandi, où vous avez été conditionné. Il va vous emporter plus loin. Et dans les premiers temps, vous aurez peur. Parce qu'il faudra quitter la maison, quitter toutes ses affaires, quitter la famille, quitter le lieu qu'on aimait bien avec le grand chêne qui était si joli. Une foule de souvenirs va envahir votre esprit pour vous donner tous les prétextes de rester. Mais le petit cousin va vous emporter quand même et la spirale commence. De ce centre qu'est le village, l'estafette va partir. Le premier tour est dans le village pour que vous compreniez à peu près ce qui se passe. Et puis la spirale commence et il sort du village. Et là, vous allez apprendre une foule de choses. Vous allez vous apercevoir de ce qu'est votre nation, par exemple, pour continuer la parabole. Vous allez vous apercevoir qu'il y a de grandes institutions, des grands monuments, des grands principes, des grands personnages. Et pour continuer l'analogie, je dirais par exemple la hiérarchie, les guides. Vous allez vous apercevoir de ces chefs de la nation, du monde. Et c'est là où, vous ayant montré tout,